VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, des insurgés islamistes somaliens Shebab ont attaqué et pillé une base militaire de l'armée somalienne ce matin dans le sud du pays, tuant au moins 8 soldats. L'attaque a visé un camp militaire de l'armée nationale somalienne situé à Bariré, à environ 40 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Afrique du Nord, l'aviation américaine a mené deux nouvelles frappes en Libye contre le groupe État islamique, tuant plusieurs de ses combattants. C'est ce qu'a annoncé l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Ces bombardements ont été menés mardi à environ 160 km au sud-est de la ville de Sirte, sur la côte de la Méditerranée. L'État islamique avait profité du chaos en Libye pour s'implanter à Sirte en juin 2015. Et toujours en Libye, la justice libyenne a lancé 830 mandats d'arrêt visant des membres présumés du groupe État islamique en Libye. Ces poursuites sont engagées à l'issue de plusieurs mois d'enquête sur le réseau djihadiste. Eric Maniakiza.
D'après le procureur général libyen, ces mandats d'arrêt visent également des personnes se trouvant à l'étranger et accusées d'implication avec le groupe djihadiste. Al-Sedik Al-Sour a parlé d'une cinquantaine de cas, précisant qu'Interpol a été saisi. Il a indiqué que son bureau dispose d'informations précieuses à la suite des interrogatoires de plusieurs de ses membres présumés arrêtés dans différentes villes libyennes. Le procureur Al-Sedik Al-Sour a affirmé que plusieurs combattants et leurs dirigeants se trouvent toujours dans le sud libyen. Ils viennent surtout de pays voisins comme la Tunisie, l'Égypte et le Soudan, mais les principaux chefs sont de nationalité libyenne, a-t-il ajouté. Enfin, Al-Sedik Al-Sour a déclaré que ses services essaient d'identifier 780 corps de combattants islamistes tués à Sirte et conservés dans des morgues à Tripoli et Misrata dans l'ouest de la Libye. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a assuré la reprise de Sirte en décembre 2016 avec le soutien aérien de l'armée américaine.
En RCA, la ville de Zemio dans l'est du pays fait face depuis lundi à une recrudescence des violences. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, qui fait état de 10 blessés, dont 3 graves, nécessitant une évacuation. Selon l'OCHA, il y aurait eu 3 incursions par des hommes armés cette semaine dans la ville. Des attaques qui ont provoqué de nouveaux déplacements de populations fuyant les combats. En juin, puis en août et en septembre, Zemio, situé à environ 700 km de la capitale Bangui, a été la cible d'incursions de groupes armés non identifiés qui ont entraîné la fuite de 25 000 personnes, non seulement en RDC voisine, mais aussi en Brousse et dans les villes voisines de Centrafrique. En Angola, le nouveau président João Lourenço a nommé jeudi soir son premier gouvernement composé de 30 ministres, dont 9 conservent les portefeuilles qu'il détenait déjà sous la présidence de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. M. Lourenço, 63 ans, a été investi mardi chef de l'État après la large victoire obtenue par son parti, le MPLA, Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, aux élections générales du 23 août dernier. Le tout nouveau président angolais succède à José Eduardo dos Santos, qui a renoncé au pouvoir après 38 ans de règne sans partage. S'agit-il d'un vrai changement dans la conduite des affaires du pays? Idriss Fall a posé la question au député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition angolais.
Pour moi, quand il y a continuité, il n'y a plus de changement. Parce que s'il faut changer, on ne continue pas à faire la même chose. Je ne trouve pas que Jean Lourenço puisse avoir la force suffisante pour changer quoi que ce soit. D'abord, il a été indiqué par dos Santos. Étant indiqué par dos Santos, il doit obéissance à dos Santos. En secondo, lui est parti d'un système, le même système qui a pratiqué la corruption pendant toutes ces années, le même système qui a très mal géré le pays. Lui était secrétaire général du MPLA à l'époque, la deuxième personne la plus importante de leur parti et par conséquent du pays aussi. Dos Santos a fait tout pour avoir des gens de sa confiance dans la direction de l'armée, des services de sécurité, de la police.
Et Dos Santos lui-même est resté à la tête du MPLA, non?
Absolument, il est resté à la tête du MPLA. Au Parlement, la majorité parlementaire n'a pas n'appartient pas à Lorenzo. La majorité appartient au MPLA, donc à De Santos. Si, par exemple, Lorenzo ne faisait pas ce que De Santos voulait, De Santos allait prendre des mesures parce que qui soutient Lorenzo sur le parti et qui est à la tête du parti, c'est De Santos. À moins que, dans un avenir très proche, De Santos puisse lâcher le parti et remettre à Lorenzo.
Il y a les enfants de De Santos aussi qui sont très présents, notamment Isabelle De Santos et son frère, non?
Non seulement les deux, presque tous les frères et sœurs sont là. Alors, est-ce que De Santos va accepter que, compte tenu le combat à la corruption, Lorenzo puisse bouger les enfants de De Santos? Certainement pas.
D'autant que l'économie ne va pas très bien parce que le prix du pétrole a baissé de manière dramatique. Quelle est sa marge de manœuvre pour lutter contre la pauvreté et la corruption?
Il est vrai qu'il a une situation économique grave au pays. Il est aussi vrai que la baisse du prix du baril du pétrole a eu un impact négatif. Mais le plus gros impact, c'est la corruption, c'est le vol. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réserve, au moins 3 ou 4 budgets de l'État. Mais l'argent est complètement disparu. L'argent s'est volatilisé comme ça. Alors, dans un pays où le vol se fait comme ça, tout le monde vole, tout le monde prend des trucs et tout ça, bon, comment est-il possible qu'on puisse redresser cette économie? Est-ce qu'on est en présence de Gorbatchev? Est-ce qu'on est en présence de Frédéric de Clercq comme en Afrique du Sud? Bon, je ne sais pas, voyons voir.
Le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, joint à Luanda en Angola.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria, la date des prochaines élections présidentielles et législatives dans le pays a été fixée au 16 février 2019. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale. Le président Muhammadu Buhari, dont l'état de santé est fragile, n'a pas dit s'il briguerait un second mandat de 4 ans. Au Cameroun voisin, les autorités de la région anglophone du sud-ouest du pays ont annoncé jeudi une interdiction stricte de se déplacer. Imitant la région du nord-ouest anglophone, un couvre-feu est déjà en place. La mesure intervient à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones dimanche. Le point avec Jean-Roger Bion.
Fermeture des frontières territoriales et maritimes, suspension des transports, interdiction de se déplacer entre les localités et interdiction des réunions de plus de 4 personnes dans l'espace public. Les autorités du Sud-Ouest, chef-lieu du UEA, ont annoncé dans un communiqué hier des mesures restrictives en amont de l'annonce de l'indépendance prévue par les indépendantistes anglophones. Un couvre-feu nocturne est déjà en vigueur dans la région anglophone du Nord-Ouest, chef-lieu Bamenda, depuis les manifestations du 22 septembre, et un deuxième communiqué des autorités du Sud-Ouest indique qu'un renforcement militaire est prévu dans la région et appelle la population à rester calme. Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance ce dimanche 1er octobre, jour de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit jeudi profondément préoccupé par la situation au Cameroun et a exhorté les autorités camerounaises à promouvoir des mesures de réconciliation nationale.
À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé ce vendredi de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, malgré le refus de Bujumbura. Une résolution en ce sens, proposée par l'Union européenne avec le soutien des États-Unis, a été adoptée par le Conseil par 22 voix pour, 11 contre et 14 abstentions. La décision du Conseil intervient alors que la veille, ce même organe de l'ONU avait adopté une première résolution sur le Burundi présentée par les pays africains avec le soutien de Bujumbura, demandant d'envoyer sur place 3 experts du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi a, dans un enregistrement audio, appelé ses combattants syriens en Irak à résister à ce qu'il a appelé leurs ennemis. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La date de l'enregistrement d'Aboubakar al-Baghdadi n'est pas connue, mais son message a souligné que, je cite, « Ce qui importe, ce n'est pas le nombre, les équipements et la force des adversaires. Il s'en est pris, je cite, aux nations infidèles et en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran qui mènent des offensives contre ses combattants en Syrie et en Irak. » Les États-Unis offrent 25 millions de dollars pour sa capture. Ses partisans l'appellent le fantôme tant ses apparitions sont rares. Créé en 2014, le groupe État islamique a perdu beaucoup de terrain en Irak et en Syrie, mais parvient à perpétrer des attentats sanglants à travers le monde.
Et pour terminer, actualité aux États-Unis, le président Donald Trump et le gouvernement américain accélèrent l'acheminement de l'aide vers Porto Rico, île des Antilles ravagée par le passage de l'ouragan Maria. Et ce, face aux critiques leur reprochant de négliger ce territoire américain actuellement en difficulté. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.